Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Vous êtes dans Bien fait pour vous, votre émission dédiée au bien-être, au mieux vivre. Ici du lundi au vendredi, on vous parle de votre vie quotidienne, comment mieux consommer, mieux gérer votre vie de famille ou même votre boulot. C'est tous les jours en direct de 11h à 12h30.
Alors Mélanie, aujourd'hui on va démarrer l'émission par une question simple. A-t-on encore le droit d'avoir des complexes dans ce monde actuel soi-disant si bienveillant où le mouvement body positive par exemple ne cesse de croître? Et à l'opposé, comment aider nos jeunes de plus en plus complexés par les réseaux sociaux et le culte du corps parfait qu'ils diffusent? On va s'interroger ce matin sur tout ça et ce dossier est en partenariat avec le dernier numéro du Figaro Madame en kiosque dès aujourd'hui.
D'ailleurs, si vous avez des questions à nous poser, surtout n'hésitez pas, on vous donne la parole dans Bien fait pour vous. Vous pouvez nous joindre par exemple via le compte Instagram de l'émission ou encore au 3921, notre répondeur. Ensuite à 11h35, on passera à notre dossier santé du jour à la veille de la Journée internationale de l'arrêt cardiaque. On a décidé de vous parler d'initiatives positives autour de cet accident. On s'intéressera notamment aux nouvelles technologies qui sont de plus en plus utilisées pour sauver des vies. Et justement, pour en parler, nous recevrons le docteur Lionel Lameau, médecin du SAMU et fondateur de Save Life.
Ensuite, dès midi, il y aura la séquence tendance de ce magazine avec chaque jour nos bons plans, nos astuces et même nos conseils culinaires. Côté gastronomie, mais surtout dessert aujourd'hui, Geoffrey Cagne, chef pâtissier, viendra nous révéler les secrets de la babka, une recette qu'il a mise au point. Je vous dis juste qu'il y aura du chocolat et de la noisette sur la table. Mmh. Et puis ensuite, Elsa Lévy et ses tendances venues d'ailleurs. Ce vendredi, elle a décidé de nous transporter en Corée avec le Homjok et le Somnudo, deux techniques pour atteindre la plénitude au quotidien.
Mais une fois qu'on sera bien zen, Julia, pour terminer ce tour de table, nous donnerons la parole au Jean-Pierre Coff de la beauté, Benjamin Lévesque. À l'occasion d'Octobre Rose, lui aussi, il se mobilise pour aider les femmes touchées par un cancer du sein. Il va nous parler de ses soins qui peuvent les accompagner pour se chouchouter, y compris pendant la maladie.
Europe 1.
Bien fait pour vous, c'est parti. Et aujourd'hui, on démarre donc par cette question. A-t-on encore le droit d'avoir des complexes? Vous en avez un, vous, de complexe, Mélanie?
Bon, je sais pas, j'ai le front peut-être un peu trop grand, mais bon, ça m'obsède pas vraiment non plus. D'ailleurs, c'est quoi réellement un complexe, Julia? Comment les jeunes d'aujourd'hui les abordent-ils? Comment gérer cette pression des fesses parfaites, des seins sublimement galbés? Enfin, tout ce qu'on peut avoir, qu'on peut voir en boucle sur les réseaux sociaux. On va voir ça dans quelques minutes, mais on va d'abord voir ce qu'en pense notre reporter parfait. C'est
Clément
Lanoux.
J'attendais la transition avec
bonjour.
Le corps galbé.
Bonjour,
tout ça. En tout cas, bonjour
Lano.
À tous. Je suis parti effectivement, comme chaque jour, poser cette question un petit peu dans la rue. La première, elle est simple. Est-ce qu'on a le droit encore aujourd'hui d'avoir des complexes?
Je pense que c'est tout à fait humain d'avoir des complexes et c'est presque modeste de les reconnaître, à moins d'être sûr de soi à 100%, ce qui est assez rare maintenant de nos jours. Après, rien n'empêche de bien vivre avec. Il faut juste l'accepter auprès de soi avant tout et surtout face aux autres.
Alors les complexes, je pense que quand on a de l'adolescence genre de 12 à 20 ans, c'est compliqué pour une fille. Enfin voilà, je suis une fille, donc je pense que c'était compliqué. La taille des seins, la taille des fesses et la longueur du nez souvent. Enfin moi, c'est vraiment les trois trucs que j'ai toujours retrouvés, moi et mes copines. Après, je dirais qu'à partir de 28, 30 ans, ça va vraiment mieux et on s'assume et ça, c'est hyper cool.
Alors oui, on a le droit d'avoir des complexes. Le tout, c'est d'apprendre à vivre avec et même d'en faire une force. Moi, par exemple, je suis pas très grande, mais je me dis que finalement, tout ce qui est petit est mignon. Et puis en plus de ça, j'ai des petits pieds, chose du 37, et je trouve mon bonheur moins cher au rayon enfant. Alors...
Il y a toujours des bons côtés.
Oui, effectivement, les bons côtés des choses.
Il faut apprendre à les aimer parce que pour la plupart des gens, les complexes qu'on a, les autres ne le voient même pas. En fait, mais ton nez, il est génial, mais ta bouche, elle est géniale. Alors, je pensais effectivement en l'entendant que ça montait à l'adolescence, mais pas que.
J'approche la quarantaine et j'ai eu deux enfants. Mon corps a beaucoup changé. Du coup, j'avoue que j'ai des défauts qui sont arrivés plutôt avec l'âge et avec ces changements. Pour ce qui est des hanches et du ventre, j'ai appris à adapter ma garde-robe. Et pour ce qui est de la poitrine, voilà, je suis toujours en réflexion, savoir si je passerai le cap de la chirurgie esthétique ou pas. Parce que vraiment, c'est un gros complexe qui me gêne chaque jour dans ma vie personnelle.
Alors, il y en a à tout âge, mais est-ce qu'il y a chez les enfants des complexes? J'ai demandé aux enfants ce que c'était que les complexes, comment on les vivait.
Moi, en fait, je sais pas, parce que mon papa, il me dit toujours « je suis trop beau ». Il dit toujours que j'ai des trop beaux cheveux. Je crois qu'il complexe que sur ses cheveux, en fait.
C'est ça.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on donne tellement confiance, parce que les enfants, c'est nous en plus beau, en fait. En nous comme avant, c'est peut-être pour ça. Justement, j'ai fait un petit florilège, j'ai demandé « mais alors, c'est quoi vos complexes ?» J'ai demandé à des adultes.
Je me trouve trop petit, voilà, je complexe sur ma taille. Et aussi, oui, mes cheveux. J'ai les cheveux très très fins et ça, je complexe, mais alors beaucoup.
Franchement, les pieds. Je trouve que les pieds, c'est un gros gros complexe chez moi. Je ne supporte pas voir mes pieds. Les chaussures, c'est tout le temps fermé. Je sais pas, les pieds, ça ressemble à des petits knackis, quoi, je sais pas.
Alors moi, j'ai un mollet qui est plus petit que l'autre. Du coup, même quand je suis en vacances au bord de la plage, je garde un jogging. Oh. Comme ça, personne ne voit.
Voilà, 40 degrés en jogging, c'est pas simple d'avoir des complexes. Et j'aimerais finir et remonter le moral de tout le monde avec cette petite réaction, justement, si vous complexez comme moi, pour avoir un peu de ventre.
Mon papa, il dit qu'il a un gros ventre. Mais c'est trop bien. On peut sauter dessus et ça rebondit.
Oh, le
il y a des avantages à tous les complexes.
C'est un peu douillet pour les câlins, les gros ventres. On aime
il paraît,
bien.
Voilà, on trouve toujours quelque chose de bien dans chacun des complexes.
Ah, merci pour ce tour de France du complexe.
Avec plaisir.
Clément Lanoux, on vous retrouve bien sûr demain avec un nouveau reportage et du sourire toujours pour démarrer notre magazine. Tout de suite, il est temps de présenter nos deux invités pour répondre concrètement à notre question du jour. Vivienne Chocasse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du Figaro Madame, notre partenaire pour ce dossier.
Et puis en studio également avec nous, Séverine Pierron, journaliste. Vous êtes l'auteur de ce dossier sur les complexes dans ce numéro du Figaro Madame. Alors je me tourne vers vous d'abord, Vivienne Chocasse. Pourquoi ce numéro collector consacré au corps des femmes en général, je veux dire ?
Alors oui, on va essayer de planter un peu ce territoire-là. On s'est dit qu'on était vraiment à une époque où la nouveauté, il y avait du neuf, il y avait un changement sur le corps des femmes comme moyen d'expression et comme moyen d'autonomie. Et on s'est dit qu'on allait l'aborder de trois manières, par l'intime, le quotidien, ce qu'on va voir aujourd'hui, les complexes notamment, par la création, c'est-à-dire les écrivains, les photographes, les illustrateurs, les illustratrices qui travaillent et qui ont comme sujet,
image.
Qui mettent en image et qui ont comme sujet le corps des femmes, en image ou en mots. Et puis l'engagement, parce que ça c'est aussi très intéressant et c'est très neuf. Il y a depuis, on dirait 4-5 ans, une nouvelle génération de femmes qui ont plutôt jeunes, entre 20 et 30 ans, qui ont ouvert un champ de discussion, de parole, de créativité autour du corps des femmes, avec des questions qu'on ne se posait pas avant, ou en tout cas qu'on ne verbalisait pas de cette manière-là. Je pense aux règles, à l'endométriose, à l'accouchement, aux violences gynécologiques, mais aussi au plaisir, évidemment, d'une nouvelle manière, à la ménopause, enfin toute une série de questions qui rappelaient que l'incarnation... cette manière de parler du corps des femmes avait peut-être été jusque-là un peu glissée sous le tapis.
Alors on parle du corps des femmes, mais Séverine Pierron, les complexes, c'est aussi pas exclusivement féminin. On l'a entendu dans le reportage de Clément Lanoux, les hommes aussi complexes, mais j'ai l'impression que c'est un phénomène plus récent. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors évidemment, les hommes comme les femmes sont soumis à des injonctions de perfection toujours plus nombreuses. Peut-être jusqu'à présent, comme on est quand même dans une société relativement de domination plutôt masculine, je ne vous l'apprends pas, les femmes étaient plutôt... c'était plutôt elles qui étaient la cible de toutes ces injonctions à la perfection. Et le curseur s'est un petit peu déplacé, en effet. Maintenant, il y a beaucoup de pression aussi au paraître sur les hommes. Donc c'est compréhensible qu'ils soient eux aussi touchés de plus en plus par cette société de l'image peut-être un peu tyrannique, qui d'ailleurs s'est renforcée avec l'usage des réseaux sociaux.
Il y a un bon âge, entre guillemets, pour complexer, parce qu'on a entendu des choses sur les ados, mais aussi celles qui ont appris la maternité. C'est quoi l'âge où on complexe le plus, s'il y en a un ?
Les complexes s'installent généralement à l'adolescence, puisque c'est l'âge de tous les risques, entre guillemets. C'est le moment où, évidemment, le corps se transforme, et à partir du moment où le corps de l'enfant change, le regard des autres se pose sur ce corps-là. Et donc, dans les représentations de soi que l'on va avoir, la question va se poser: est-ce que je suis conforme aux attentes de la société ? Est-ce que je suis non conforme ? Généralement, l'adolescent se trouvera toujours assez peu conforme aux attentes de la société et de la pression du groupe.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on tente chaque jour avec Julia Vignali de faciliter votre vie quotidienne. Et alors aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'on se pose cette question, a-t-on le droit d'avoir des complexes ? Une émission en partenariat avec le dernier numéro collector du Figaro Madame, qui est en kiosque dès aujourd'hui. Alors justement, vous en êtes sa rédactrice en chef, Vivienne Chocasse. Est-ce qu'on n'est pas à une époque dans laquelle finalement on accepte davantage son corps quelque part, avec ses mouvements, Julia l'a un petit peu dit avant, mais le body positivisme, tout ça, est-ce que c'est juste une illusion ou on y est quand même?
Alors, on est surtout à une époque, et finalement le micro-trottoir le montrait bien, où il y a une face pile et une face du complexe. C'est-à-dire que d'un côté, on est invité à venir avec sa liberté dans le monde, c'est-à-dire viens comme tu es, avec tes imperfections, et de l'autre, on est évidemment soumis, réseaux sociaux obligent, ou en tout cas y participent beaucoup, à toute une série de nouvelles normes, et surtout on est invité, si quelque chose ne va pas, si quelque chose est différent, puisqu'on est ravis de vous accueillir avec votre différence, à savoir le raconter. C'est-à-dire que ça, c'est une autre difficulté contemporaine, c'est viens avec ta différence, mais si tu peux avoir un storytelling qui va avec, mais c'est franchement
ça
mieux.
Ça nous arrange. Alors vous êtes également avec nous ce matin, Séverine Pierron, je rappelle que vous êtes la journaliste qui a écrit ce dossier sur les complexes dans ce numéro du Figaro Madame. Mais c'est quoi d'ailleurs qu'on comprenne bien le body positive? Ça vient d'où? Depuis quand? Comment c'est apparu?
Alors le body positive, c'est un courant qui est plutôt né aux États-Unis et qui en fait encourage les individus à s'assumer tels qu'ils sont, donc dans toute leur imperfection et dans toute leur vérité. Et donc c'est surtout un courant qui a pris son envol grâce aux réseaux sociaux, puisque évidemment, grâce aux réseaux sociaux, on peut se mettre en scène, on peut se raconter, c'est ce que disait justement Viviane, et montrer la vérité de son corps, ses défauts, et en faire des atouts.
Bon, ça démarre plutôt bien, on est content avec le body.
On est plutôt content, ouais. Mais comme disait Viviane, en effet, c'est maintenant il faut, si vous voulez, accepter ses défauts. C'est-à-dire que les complexes doivent être gommés dans le sens où on doit en faire quelque chose de positif, on doit s'en servir.
Alors pour aller encore plus loin, on va accueillir en ligne tout de suite le professeur Amélie Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et professeur à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. On parlait à l'instant de ce mouvement body positive. C'est quoi selon vous? Est-ce que c'est mal vu maintenant d'avoir des complexes? Est-ce qu'on en aura toujours finalement?
Alors je pense qu'on en aura toujours des complexes, parce que les complexes, ça résulte d'une comparaison entre ce que je suis et ce que je voudrais être. Donc ça existera toujours. Après, comme ça a été dit auparavant, c'est pas problématique d'avoir des complexes. C'est juste la place que ceux-ci occupent dans ma vie quotidienne et si oui ou non ils sont source de souffrance.
Viviane Chocas, on va reparler des réseaux sociaux. Vous dites qu'ils ont amplifié les complexes. Comment ça s'est produit, ça?
Alors c'est jamais uniforme, il n'y a pas qu'une seule couleur, c'est jamais monochrome, c'est-à-dire que on a morcelé le corps par exemple, les réseaux sociaux ont beaucoup morcelé le corps avec le jeu, c'est un jeu, c'est une créativité, on joue sur la bouche, on joue sur le pied, on joue sur le tatouage.
On poste un sein,
exactement, qui deviennent un langage, qui deviennent presque un puzzle aussi, c'est-à-dire c'est une sorte de Rubik's Cube, je vous donne un bout, racontez votre histoire, inventez-la, ça c'est une chose. Et dans le même temps, cette narration, on n'est pas non plus obligé de l'avoir au bout des lèvres, quoi.
Ouais.
Donc s'asseoir dans son fauteuil tranquillement avec son complexe, c'est quelque chose qui est devenu un peu difficile.
On s'inquiète surtout pour les jeunes, hein, qui sont très influencés parce qu'ils voient justement ce culte du corps parfait sur les réseaux sociaux. Professeur Rousseau, comment on peut protéger très concrètement, bien nous parents, nos jeunes, de cette influence éventuellement néfaste?
Alors déjà, peut-être limiter le temps de connexion aux réseaux sociaux et notamment au contenu, je dirais, corporel. Ensuite, ça passe aussi par tout ce qui est psychoéducation avec nos enfants par rapport aux médias, leur faire bien comprendre la différence qui existe entre image médiatique et réalité. Et aussi valoriser nos enfants par rapport à des qualités plutôt intrinsèques comme l'humour, la générosité, que plutôt toujours parler de corps et valoriser des qualités extrinsèques comme la minceur, le corps, l'apparence.
Alors Séverine, on le sait bien, les canons de beauté changent avec le temps, les époques. Du coup, on imagine que nos complexes suivent ces tendances. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'en 2021, on complexe sur des choses différentes qu'il y a un siècle?
Bah alors je pense que déjà on l'a toutes remarqué, maintenant on a le droit d'avoir des grosses fesses.
Ouais,
c'est quand même, ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle.
C'est ça.
Peut-être je pense qu'on peut créditer Kim Kardashian pour cette bonne nouvelle.
Au moins pour ça.
Alors par contre on a le droit d'avoir des grosses fesses, mais attention. Sans cellulite, oui. Il faut qu'elles aient vraiment cette forme de poire, oui. Qui généralement est totalement artificielle. Par contre, je vous dis la vérité, malheureusement, ça n'existe pas dans la nature.
C'est avec le bistouri, ça.
Voilà, c'est plutôt des
réinjections de graisse aussi.
Voilà, ouais. Des réinjections de sa propre graisse. Donc voilà, évidemment, les critères de beauté ont changé. Ils évoluent, mais toujours, il y a cette tyrannie de l'image parfaite qui est renforcée par les réseaux sociaux, malheureusement.
Vous dites, Séverine, dans votre article, vous parlez des corps des personnes avec des handicaps, notamment, qui sont davantage représentés aujourd'hui aujourd'hui. Donc on peut dire que tout ça, c'est quand même un progrès pour le coup. Hein.
Alors c'est un progrès, en effet. Par exemple, bêtement, les Jeux Olympiques Paralympiques, on a vu des corps différents, entre guillemets. Mais c'est vrai que ce qui est difficile, c'est d'avoir un corps handicapé dans la vie de tous les jours, dans la vie normale. C'est-à-dire que là, ce sont des corps performants. Mmh. Et finalement, on accepte un corps handicapé, un corps dit non valide, s'il est dans la performance, ici, dans le dépassement de lui-même.
Oui, ce n'est pas une acceptation totale et quotidienne.
Voilà, c'est ça. C'est ça qui est un peu problématique.
Alors, professeur Rousseau, est-ce qu'il y a des tabous qui restent encore aujourd'hui insurmontables? Par exemple, je ne sais pas, je pense au complexe lié à l'âge, par exemple?
Non, enfin moi je pense que au niveau de la littérature, hein, ça a bien été montré qu'avec l'âge, on a d'autres complexes qui apparaissent, comme ça a été dit, les rides, les cheveux blancs, le manque, enfin la perte de tonicité du corps, etc. Donc ça touche, je dirais, tous les âges, avec des complexes différents qui peuvent apparaître aussi après des grossesses, etc. Mais personne n'est épargné. Mmh.
Viviane Chocas, est-ce que nos complexes sont forcément liés à la sexualité aussi? Parce que c'est parce qu'on veut plaire, c'est parce qu'il y a une histoire de désir aussi dans ce qu'on représente par rapport aux autres. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors j'ai envie de vous dire que nos vies sont liées de A à Z, à mon avis, à la sexualité, au moins pour ce qui est du désir. C'est-à-dire que je pense à une phrase de Philippe Roth qui dit par exemple dans La bête qui meurt, le désir, je connais rien d'autre pour me sentir vivant, me sentir aussi vivant. Donc oui, je pense que la bonne nouvelle, c'est que s'ils sont liés au désir ou à la sexualité, ça veut dire qu'ils sont liés à notre rapport à l'autre. Bon, ça c'est peut-être bien. Peut-être
positif en 2021 pour le coup,
ça. La face agréable du complexe. Ouais. Quoi.
Et le féminisme dans tout ça, Séverine Pierron, c'est une démarche féministe de venir à bout de ces complexes?
Bien sûr, l'idée là, derrière ça, c'est quand même la libération, c'est quand même une forme de libération, c'est-à-dire s'accepter tel qu'on est, trouver des gens qui vont vous accepter aussi, parler le même langage. L'idée, c'est quand même voilà, la libération de la femme, la libération des corps, bien sûr, ça va dans le bon sens.
Donc ça veut dire aussi pouvoir répondre parfois aux méchancetés aussi, ne plus prendre parfois les mauvais traitements qu'on entend et pouvoir y répondre en disant, bah, par exemple, je ne sais pas...
J'ai des grosses fesses, je les assume.
Je les assume. Non, mais c'est vrai, c'est
voilà,
ça
personnellement,
aussi.
Personnellement, j'ai un grand nez et il a été assez difficile dans ma jeunesse d'en faire quelque chose, justement, comme disait Viviane, une forme de storytelling. Et en fait, bien sûr, c'est quelque chose, un trait de personnalité assez fort et donc il a fallu que j'en fasse un atout. Mm-hmm. C'est un peu ce qu'on dit à tout le monde. Viviane. C'est pas facile.
Il y a une chose intéressante aussi, c'est que les féministes avaient un peu oublié le corps. C'est-à-dire que les années 60-70, c'était la volonté de s'affranchir avant tout d'un destin maternel. Donc on se battait pour le droit à la contraception, le droit à l'avortement. Et puis le corps, après, a un peu été comme ça occulté jusqu'à cette nouvelle génération qui remet sur la table des questions qui étaient taboues. Il reste quand même un complexe, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, je pense que on l'a vu en faisant ce numéro collector et de nombreuses enquêtes le montrent encore. Oui, l'âge, l'invisibilité oui. Après 50-60 ans, ça reste un seuil difficile.
Et justement, l'âge et le désir aussi, le désir vieillissant, c'est vrai que c'est un peu tabou encore. Hein.
Bien sûr, mais je peux...
Oui, ah,
c'est une chose, c'est que par exemple, il y a une philosophe qui s'appelle Camille Froide-Vométry qui nous a fait remarquer de manière très intéressante dans ce numéro que la ménopause, en théorie, c'est... en idée reçue, on n'a plus ses règles, donc on ne fait plus d'enfants. Mais ce n'est pas ça le problème, on ne fait plus d'enfants à partir de 45, 46, 47 ans aujourd'hui.
Bien sûr.
Donc, on se raconte des histoires. La ménopause, ça a évidemment un lien avec le désir et avec le fait qu'on imagine les femmes sans sexualité à ce moment-là.
Bien sûr. Professeur Rousseau, vous êtes toujours en ligne avec nous. Pourquoi finalement de nos jours on est autant obsédé par nos corps? J'imagine qu'en 1950 c'était moins le cas, mais bon, après tout c'est humain, non, de complexer.
Mais en fait, on est un peu immergé là dans des informations, dans des corps, etc., qui n'était pas le cas dans les années 50. Voilà, là, on est bombardé d'images médiatiques, on est dans les réseaux sociaux. Enfin, voilà, je pense que c'est ce qu'on appelle tout ce qui est influence socio-culturelle, et les réseaux sociaux ont exacerbé tout ça.
Professeur, j'avais une question aussi sur l'aspect psychologique des complexes, parce que, ok, les réseaux sociaux, ça ne nous aide pas, évidemment, mais par exemple, il y a des gens qui détestent leur nez parce que ça leur rappelle, je ne sais pas, un père ou une mère qu'ils n'aimaient pas ou très dur avec eux. Est-ce que ça aussi, ce sont des mécanismes qui peuvent créer un complexe?
Oui, après, tout ce qui est histoire aussi de moquerie pendant l'enfance, pendant l'adolescence, peut faire qu'un léger défaut prenne une proportion très très importante dans la vie quotidienne de l'individu et soit source de souffrance. Donc tout ça se construit quand même dès l'enfance.
Et on peut se faire aider pour ça, on est d'accord. On peut avoir un soutien psychologique nécessaire pour faire un travail là-dessus.
Après, comme je le disais tout à l'heure, les complexes en soi, c'est pas pathologique. Tout le monde en a tous, etc. C'est dans quelle répercussion a ce complexe dans ma vie quotidienne, et si oui ou non il est source de souffrance. Il y a des personnes qui sont incapables de sortir parce qu'ils trouvent que voilà, ils ont un gros nez, etc. Donc ils vont utiliser des techniques de camouflage, etc. C'est ça qui est problématique. Oui. Mais des complexes, on en a tous.
C'est tout à fait humain. Merci beaucoup, professeur Rousseau, d'avoir été avec nous. Mesdames, Viviane et Séverine, vous restez avec nous. Hein, vous bougez pas, on a encore des questions à vous poser. Et surtout, nos auditeurs et auditrices en ont pour vous. Vous allez leur répondre dans quelques instants. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, c'est le moment. Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le hashtag Europe 1 ou encore au 3921, notre répondeur.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.
Ça fait du bien d'entendre James Blunt.
Il veut dire qu'on est belle.
Tout le monde, il le dit. Il est trop gentil. Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Avec Mélanie Gomez ce matin, on tente de répondre à cette question. A-t-on encore le droit d'avoir des complexes? Un dossier en partenariat avec le dernier numéro du Figaro Madame que vous trouverez dès aujourd'hui en kiosque. Alors pour nous éclairer justement sur ce sujet, elles sont toujours à nos côtés. Viviane Chocast, rédactrice en chef de ce magazine, et Séverine Pierron, journaliste et qui a pris en charge ce dossier sur les complexes. Justement, on a une question pour vous, mesdames, en ce sens
d'un
de
homme
David.
En plus, alors ouais, on parle David, d'un dossier femme, c'est génial.
Qui nous a laissé donc sa question sur le 3921, notre répondeur. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Julien. Voilà, je vous entends parler des complexes. Moi, en fait, du coup, je me suis fait opérer plusieurs fois du nez parce que voilà, j'avais une bosse, j'ai mon nez qui tombe. Et en fait, je suis jamais satisfait. J'ai toujours envie de refaire une opération. Et je voulais savoir du coup si on pouvait en fait parler de dysmorphophobie pour ça en fait, le fait que je suis jamais satisfait de ce que j'ai. J'aimerais bien avoir une réponse à ça et je vous remercie beaucoup. Bonne journée, au revoir.
Alors je rappelle que la dysmorphophobie c'est un trouble psychiatrique, hein,
bien
c'est
sûr.
Bien ça Mélanie,
c'est quand complexe. Vous, alors en tant que journaliste mais aussi en tant que complexé du nez pendant des années, vous nous l'avez dit tout à l'heure.
Oui, c'est
qu'est-ce
vrai.
Qu'on peut dire
tout
de
va mieux
la situation mais... justement de Jérémy.
En effet, il y a un décalage. La dysmorphophobie c'est quand il y a un décalage entre l'image qu'on a de soi, la perception qu'on a de soi et la réalité. Et puis c'est parfois augmenté par les filtres qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. On entend cet auditeur qui est troublé par son nez qui tombe. Peut-être qu'en fait, il voudrait ressembler à cette image améliorée, celle qu'on peut trouver grâce aux filtres. Maintenant, on ne poste plus une image de soi telle qu'on se voit le matin au saut du lit dans le miroir. On a toujours une...
Même s'il y a une tendance d'actrice, là, justement, qui se poste au naturel.
Oui, ouais, enfin, qui y croit, franchement, qui y croit. Personne n'y croit.
Il y a quand même un petit filtre, quoi, c'est ça.
Il y a un filtre no make-up, parce que le no make-up, c'est en fait plein de make-up pour avoir l'air no make-up.
C'est
voilà.
Ça, okay. Donc là aussi, vous ne faites pas avoir. Hein, c'est nude, sans maquillage, ils sont pas tout à fait nude. Hein,
non, mais ça veut dire que si on répond à David, que finalement, parfois, la chirurgie esthétique n'est pas du tout la solution, en fait.
Bah, c'est-à-dire, s'il y a un problème psychique très ancré, en fait, la chirurgie, vous pourrez faire toute la chirurgie.
C'est plutôt un travail comme psychiatre qu'il
faudrait
faire.
Bien sûr, si vous pouvez faire toute la chirurgie que vous voulez, vous n'atteindrez jamais cette image idéale.
Bien sûr.
Alors, on a également Sylvaine sur Instagram qui dit qu'elle était partie en camp naturiste cet été, que ça a changé sa vie. Est-ce que la nudité peut nous décomplexer? Je ne sais pas qui veut répondre. Séverine, alors.
Alors, bien sûr, moi, en tant que fervente défenseuse de naturiste, oui, je l'avoue à cette antenne.
Bien sûr.
Le naturisme, c'est quelque chose qui vous recale, en fait, qui vous remet... vous habitez vraiment votre corps. C'est-à-dire, le corps, c'est quelque chose qui nous permet de marcher. Voilà. Et finalement, dans la vie de tous les jours, on y pense assez peu à notre corps, si ce n'est au travers du prisme des complexes. Et quand on est sur une plage, dans l'anonymat complet de la nudité d'autrui, ce qui est quand même un truc qui a priori semble très très bizarre, je vous l'accorde, mm-hmm. Eh bien on a une forme de libération qui est assez inattendue et que je vous conseille.
Ah, bon, génial. Bah, et c'est pas du tout un truc de comparaison. C'est pas parce qu'on regarde les corps des autres qu'on se rassure sur le sien.
Alors on peut regarder les autres bien sûr, mais le regard dans les camps naturistes est assez inexistant et c'est très bienveillant.
Ah,
ce
génial.
Qui fait qu'en fait on se rend compte qu'on est dans la banalité de notre normalité et ça fait énormément de bien.
Ouais. Moi j'ai une anecdote sur une plage naturiste. J'ai failli à Locat, ça m'a atterrir sur une plage comme ça, hein, pourquoi pas. Quand j'ai vu ce que c'était, bah, je suis retournée parce que moi je porte un maillot et j'ai croisé une famille avec trois adolescents et je leur dis surtout n'y allez pas, c'est naturiste. Ils me disent on sait bien. Et et on y va pour ça. Je me suis dit, même ado, quand on a été élevé justement dans cette ambiance naturiste, bah, finalement, aucun problème, quoi.
Finalement, c'est un non-événement, en fait. Ouais, il faut juste, essayer. Ouais. Il faut juste essayer. Mais c'est vrai que l'image qu'on a souvent du naturisme, c'est soit quelque chose d'assez ringard, soit quelque chose d'un peu louche. Mais on confond un peu quand même échangisme et naturisme, et ça n'a rien à voir.
Vous avez l'air très bien dans leur basket, tous ces gens, en plus.
Alors, il y a également une question de Charlotte qui nous demande sur Twitter si on transmet ces complexes à ses enfants, par exemple. Vous le pensez, Viviane ?
Je pense que ça doit être assez fréquent, mais ce qui est intéressant aussi, et qui est un peu neuf aujourd'hui, c'est qu'on peut faire de l'éducation renversée, c'est-à-dire que... Parce que les choses se racontent davantage, avec la violence, mais avec la fantaisie aussi. N'oublions pas que les réseaux sociaux, ça diffuse aussi de la fantaisie. C'est peut-être aussi l'enfant, l'ado, qui peut raconter autre chose à ce papa qui aura un nez qui ne lui plaît pas et qui pourra porter un regard inversé, une éducation inversée. Ça fera du bien à tout le monde dans la famille.
Séverine, une petite dernière. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces enfants, justement, ou ces ados ? Enfin, du coup, là, on s'adresse plutôt à leurs parents aujourd'hui, mais que l'on voit déjà mal dans leur peau, qui ont de gros complexes. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces jeunes ?
Ben, on peut leur conseiller déjà de moins consulter les réseaux sociaux, même si c'est très difficile. Et vous savez qu'en ce moment, les réseaux sociaux Facebook et Instagram, en premier lieu, sont un petit peu dans la tourmente parce qu'on on sait qu'une enquête a révélé, une enquête interne de Facebook a révélé qu'en fait, Facebook savait qu'Instagram était nuisible pour l'image des adolescents. Et donc, il faut faire de l'éducation. On ne pourra jamais les empêcher de se comparer, de se regarder, puisque c'est la base de l'adolescence.
Bien sûr.
On construit l'image qu'on a de soi-même. Voilà, il faut juste essayer d'un tout petit peu encadrer ça et surtout d'en parler, d'échanger avec nos ados.
Tout est une histoire d'éducation comme d'habitude. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions et à celles de nos auditeurs ce matin. Les complexes n'ont presque plus de secret pour nous et je rappelle donc pour en savoir plus et puis aussi pour le plaisir car c'est un très beau magazine, le dernier numéro collector du Figaro Madame qui est disponible dès aujourd'hui.
Très bien, merci à toutes les deux. Julia, à présent on va changer de thème. Demain c'est la journée mondiale de l'arrêt cardiaque. Ne vous inquiétez pas, on va pas basculer dans le drame, mais on va vous parler d'initiatives positive pour sauver encore plus de vies. C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Et bien voilà, dans notre dossier ce matin, on va mettre un coup de projecteur notamment sur les nouvelles technologies qui viennent aujourd'hui au secours de l'arrêt cardiaque. Pour nous décrypter tout cela, il est avec nous en studio, c'est le docteur Lionel Lameau. Vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris-Smur-Necker et le fondateur de Sauve Life, une technologie dont on va parler dans un instant. Mais avant cela, est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre d'arrêts cardiaques chaque année en France, docteur ?
Oui, c'est un vrai problème de santé publique majeur. C'est 40 à 50 000 morts par an. Pour vous donner des comparatifs, on parle de 2 à 3 000 maximum morts sur la route. Donc c'est vraiment un problème de santé publique de toute première importance, avec seulement 5% de survivants en France. Mais on peut changer cela, et c'est ça qui est important aujourd'hui.
Il y a des pays qui font mieux que nous, qui ont des meilleurs taux de survie ou pas ?
Oui, beaucoup mieux que nous, les pays du nord de
toujours
l'Europe.
Toujours les mêmes, hein, ils c'est font toujours tout mieux, j'ai l'impression.
Non, ils ne font pas toujours tout mieux. Ouais. On va en reparler, mais ils arrivent à 30-40% de survivants.
C'est énorme la différence.
Oui, mais on ne peut pas comparer des petits pays qui sont regroupés sur des villes uniques, avec peu de milieux ruraux, finalement, pas comme les nôtres. Donc, mais il y a des choses à apprendre de chez eux, en tout cas.
Bon, vu la taille de la France, en tout cas, on fait déjà pas mal. Mais
on peut faire mieux, surtout. Voilà.
Lorsqu'on parle d'un arrêt cardiaque, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps ? Pour les gens, c'est vrai qu'on imagine la personne qui s'écroule tout d'un coup, mais c'est quoi ? Le cœur, il est vraiment arrêté. Il ne bat plus, expliquez-nous physiologiquement ce qui se passe.
Le cœur s'arrête de battre de manière organisée. Et ce qui est important, c'est que dans les toutes premières minutes, il y a en fait encore le muscle, il marche encore. Et ce qu'on appelle la fibrillation ventriculaire, c'est un peu comme si le circuit électrique était complètement azimuté. Sur un ordinateur, on fait le reset. Et là, c'est ce qu'on va demander au cœur, c'est de faire un reset. Et comment on va le faire ? Avec un défibrillateur cardiaque qu'on a maintenant partout et en faisant du massage cardiaque aussi. Donc, dans les toutes premières minutes, le cœur ne marche plus fonctionnellement, mais il marche musculairement. Et après, malheureusement, il marchera même
donc
plus musculairement.
Donc, il irrigue encore le reste du corps au début, en tout cas, les premières secondes.
Très difficilement. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire un massage cardiaque.
Oui, donc les premières minutes sont cruciales, on l'a compris. Mais alors, cet arrêt cardiaque, c'est dû à quoi en général ? Qu'est-ce qui peut provoquer ça ?
80% des arrêts cardiaques sont dus à ce qu'on appelle communément l'infarctus. Maintenant, on appelle ça un syndrome coronarien aigu, ça fait mieux. Mais c'est la même chose, c'est une artère du cœur qui va se bloquer et qui va provoquer l'arrêt cardiaque.
C'est la crise cardiaque aussi, comme disent les gens, hein, c'est ça.
Alors, la crise cardiaque, c'est la douleur dans la poitrine, ça ne va pas jusque-là. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que 50% des gens qui rentrent dans la maladie cardiovasculaire de manière mortelle, c'est par l'arrêt cardiaque. C'est donc un vrai problème majeur.
Donc c'est une urgence, évidemment, qu'on redoute tous, il faut le dire, être témoin d'un arrêt cardiaque. Et ça, d'ailleurs, comment on fait pour être sûr quand la personne s'écroule ? Parce qu'après tout, on peut tomber dans les pommes. Enfin, comment on peut être sûr que c'est le cœur qui a lâché, quoi ?
C'est extrêmement simple. C'est quelqu'un qui ne vous répond pas, qui est dit inconscient. Ça, tout le monde reconnaît quelqu'un d'inconscient facilement. Et qui ne respire pas ou de manière très anormale. On a ce qu'on appelle ces fameux gasps au début. C'est-à-dire que les gens vont respirer un peu comme un poisson hors de l'eau, une fois tous les 20 à 30 secondes. Vous avez un doute ? Massez. Vous ne pouvez pas faire
même
de mal.
Même quelqu'un qui est dans les pommes, entre guillemets, si on le masse
Au pire, il va
rien.
Se réveiller et puis il va vous dire arrêtez.
Arrête, c'est ça, d'accord, ok. Mais vaut mieux le faire que
dans
rien.
Dans ce sens-là, il y a beaucoup moins de risques. D'accord. Et c'est un problème qu'on a dans la population.
Alors justement, vous dites masser, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment on fait repartir un cœur ?
Ça va être une association de massage cardiaque. Pour faire très simple, appuyez le plus fort et le plus vite que vous pouvez au milieu de la poitrine, sauf si vous êtes un grand bodybuilder. Et on va utiliser ces fameux défibrillateurs que vous voyez maintenant partout en accès public. C'est extrêmement simple. Vous l'allumez et vous vous laissez guider.
Mais d'accord. Tout le monde peut masser, même une petite mamie qui serait témoin de son mari qui tombe, elle peut masser.
Tout le monde peut faire un massage cardiaque.
Je vous dis d'appuyer fort, donc le plus fort qu'elle peut, c'est tout. Quoi.
Bah, une mamie, je ne sais pas si vous pouvez appeler ça comme ça, mais quelqu'un de plus frêle, on va dire, va appuyer le plus fort. Et ça change le pronostic des gens.
Et puis elle peut se faire relayer, justement, cette petite personne frêle, non ?
Oui, l'idée, c'est d'avoir un relais le plus rapide possible.
Et alors, moi, j'ai toujours entendu dire, je n'ai pas fait encore les gestes de premier secours,
tout
ça.
On va les organiser. On va les organiser.
Moi, j'ai mon PS1,
ça, c'est bien. Mais il paraît qu'il faut masser en rythme, stay in alive, c'est ça ?
Alors, Staying Alive est même un tout petit peu trop lent.
Ouais.
Maintenant, on dit la Macarena.
Ah, c'est la Macarena.
Ah, plus de 100, plus. Plus de 100 par minute.
Dalla tu cuerpo, alegría Macarena, que te puedes parar.
J'ai des professionnels en face.
Faut pas faire la Corée, Mélanie.
Faut masser. Mais l'un des points fondamentaux, c'est que quand vous allez appeler pour un arrêt cardiaque ou que Sauve Life va vous déclencher, le SAMU va vous guider pour réaliser ces gestes qui sauvent.
D'accord.
Vous n'êtes pas tout seul.
Oui, donc
quelqu'un, un professionnel de santé au SAMU va vous répondre et va vous guider pour réaliser ces gestes et vous donner le rythme, ce fameux rythme. Il chantera pas la Macarena, mais il vous donnera un rythme.
Docteur Lamour, on n'en a pas fini avec vous. Dans un instant, on va justement aller regarder, on l'a dit, du côté des nouvelles technologies qui ont vraiment changé la donne, comme Sauve Life ces dernières années. Donc la prise en charge de l'arrêt cardiaque, c'est du nouveau, c'est pas fini. On va voir ça sur Europe 1.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Oh, elle la chante bien, Mélanie. Bon, alors c'est la Macarena, bien sûr, mais c'est pas pour rien qu'on vous la met, c'est parce que c'est le rythme qu'il faut suivre pour faire un bon massage cardiaque. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Votre émission dans laquelle on prend soin de votre vie quotidienne et de votre santé, bien sûr. On est à la veille de la journée mondiale de l'arrêt cardiaque. On s'arrête un peu ce matin sur ce qu'on peut faire chacun de nous pour améliorer la situation.
Et Mélanie, on en parle avec le docteur Lionel Lameau. Vous êtes médecin urgentiste et le fondateur de Sauve Life. Alors on l'a dit juste avant, le massage cardiaque, c'est vraiment le geste qui change tout. S'il est réalisé tôt, non pas forcément par des médecins, mais chacun d'entre nous, et ça c'est très positif. Mais si, justement, Mélanie disait, c'est une petite dame de 45 kilos qui tombe, il faut faire attention au gros gaillard là, de 100 kilos. Il ne risque pas de lui casser quelque chose en appuyant fort ?
Il y a toujours un risque, mais ce risque, il n'est rien par rapport à sauver une vie. Le plus grand risque, c'est de ne rien faire.
D'accord.
C'est là le vrai risque. Et aujourd'hui, qu'on interroge la population française, on a peur de mal faire. Il faut savoir que dans l'arrêt cardiaque, il n'y a pas de mort grave. La personne va mourir si on n'agit pas. Casser une côte et être en vie, ce n'est pas un problème.
On s'en fiche, on y va. Quoi.
Exactement, il ne faut pas avoir peur.
Vous dites, on ne massera jamais mal, de toute façon, il faut appuyer le plus fort qu'on peut au centre, entre les deux seins, quoi, on va dire, entre les deux omoplates. Enfin, pas les omoplates,
au milieu de la poitrine, vous appuyez.
Oui, si c'est des omoplates, ce n'est pas bon du tout, vous êtes trompé.
Vous êtes un peu envers.
C'est ça. Mais par contre, on est d'accord, qu'est-ce qui va se passer dans le cœur quand je vais faire ça ? Ça va, le faire battre, en fait artificiellement,
vous,
c'est ça ?
Vous allez remplacer sa fonction de pompe, c'est-à-dire que quand vous allez relâcher, ça, il faut bien relâcher complètement le thorax, le sang va rentrer dans le cœur. Et quand vous allez appuyer, ça va l'éjecter et ça va l'envoyer vers où ? Surtout le cerveau et le cœur pour protéger les organes nobles.
Alors, il y a 3 ans, docteur, vous avez créé l'application Sauve Life. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de cette appli ?
Sauve Life, c'est créer une communauté de citoyens sauveteurs, vous, moi, n'importe qui. S'inscrit gratuitement sur l'application, c'est extrêmement simple. Quand moi, je reçois un appel au SAMU pour un arrêt cardiaque, je suis envoyé les pompiers, le SAMU. Ça, c'est comme d'habitude. Et on déclenche l'application. Si vous êtes à proximité, vous allez recevoir une notification. Si vous êtes disponible, vous appuyez. Le GPS va vous guider pour aller faire le massage cardiaque ou peut-être prendre un défibrillateur. Et le SAMU va vous suivre, c'est ça qui est aussi important. Il va vous suivre pour vous appeler, pour vous guider, pour réaliser les gestes qui sauvent quand vous arrivez. Ce qui fait que n'importe qui, à partir de 15 ans, formé ou non, peut s'inscrire sur l'application.
On est dès 15 ans, je peux la télécharger. Hein.
Oui, avec une autorisation parentale. Nos plus jeunes sont des concitoyens. C'est un acte de citoyenneté. C'est pas un acte technique, c'est un acte de citoyenneté. Nous devons donc tous agir pour nous entraider essayez de nous sauver. Même si vous n'êtes pas formé, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se former, ce n'est pas mon message.
Mais en attendant, former, déjà, je peux m'inscrire.
J'ai envie de vous dire que ce n'est pas une excuse.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est bien ça mon message. Et tout le monde peut aider. Et probablement, quand vous allez être alerté et que vous n'avez pas été formé, vous irez vous former derrière.
On a une question au 39-21 de Joseph qui demande si c'est vrai qu'il ne faut pas masser, par exemple, si on trouve quelqu'un dans un lit, il ne faut pas masser sur un matelas, il faut masser toujours au sol, c'est vrai ou pas?
Il vaut mieux être sur un plan dur, mais j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas en capacité de mettre la personne par terre, massez là où vous êtes.
Ouais, même sur un matelas. Donc,
mais c'est mieux d'être sur un plan dur. D'accord. On comprend bien, c'est un système de pompe, il faut qu'en dessous, vous enfonciez pas.
Comment vous est venue cette idée, vous, de lancer Save Life il y a 3 ans? Vous partiez de quel constat? Qu'est-ce qui vous posait problème? Comment est venue l'idée?
Save Life, ça devient un constat de clinique, de tous les jours au SAMU. Moi, j'ai développé des techniques dans l'arrêt cardiaque un peu complexes, un genre de cœur artificiel qu'on peut mettre sur place. Quand on arrivait, il fallait que les gens soient massés pour que le cerveau soit encore en vie. Et souvent, on avait des gens qui arrivaient qui disaient: mais si je savais, je serais venu aider. Je serais venu faire ce massage cardiaque, mais j'habite juste à côté. Mais j'étais pas au courant. Et là, de fil en aiguille, on a vu une présentation de quelque chose qui ressemblait à ça aux États-Unis. Et on a dit, faut qu'on fasse quelque chose en France, un peu similaire, un peu différemment, parce que nous, en France, on a toujours peur de mal faire. Donc, il fallait qu'il y ait de la visio, il fallait que le SAMU puisse aider. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de Save Life.
Donc, c'est pas parce que vous n'arrivez pas assez vite, les secours, parce qu'en France, vous arrivez quand même relativement vite.
Le système français est quand même très bien organisé.
Voilà, on est très bon, je sais.
C'est 13 à 14 minutes en moyenne sur le territoire national.
Sauf que vraiment, vous disiez, les 2-3 premières minutes, elles comptent énormément.
Une minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins.
Oula.
Donc, en 10 minutes, vous avez fait le calcul, il y a peu d'espoir. Si on met 13 minutes à arriver, le calcul, il est vite fait. Oui. C'est
et
seulement
ceux
qui ont la chance d'être devant les pompiers, devant le SAMU. Voilà, c'est plus ce qu'on veut. C'est plus de la chance qu'on veut. On veut une organisation, un parcours de soins où tous les citoyens peuvent agir en massant immédiatement.
Et ce délai de 13-14 minutes, là, il est incompressible, on n'ira pas en deçà?
Sauf si vous voulez mettre quelqu'un derrière dans chaque immeuble.
Ouais, donc ça
on
n'en
va pas avoir le choix.
D'où l'intérêt de se former ou pas, en tout cas d'aller sur Save Life et de commencer les gestes dès la première minute immédiatement. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui ont pu être sauvées grâce à votre appli depuis 3 ans?
Oui, aujourd'hui, on a 300 personnes dont le cœur est reparti avec une action d'un citoyen sauveteur comme vous, comme moi, n'importe qui a agi pour essayer de sauver ces gens-là. Donc c'est quelque chose qui marche aujourd'hui. Quand on regarde par mois, on est quasiment à une dizaine de cœurs qui repartent grâce à cette action de citoyen. Ça ne fait qu'augmenter. Plus nous
serons
nombreux.
Ça vous pique entre guillemets les honneurs. Donc ça veut dire que nous, on peut faire autant que vous. On peut sauver la vie à des gens. Alors vous êtes un grand docteur, quoi.
Je vais être très clair. Sur l'arrêt cardiaque, c'est le citoyen qui sauve les gens. Voilà. C'est pas le pompier, c'est pas le médecin du SAMU. C'est vous. C'est le citoyen qui pourra faire quelque chose. Si le citoyen n'agit pas, je peux inventer des machines hyper compliquées. Ça ne servira à rien parce qu'il n'y a pas eu de massage cardiaque pour sauver le cerveau. Donc il faut agir et plus on sera nombreux, aujourd'hui on est 530 000 sur l'application, il n'y aura jamais plus proche que son voisin.
Comment on s'inscrit? C'est simple d'ailleurs sur le site, je remplis quoi? Mon nom, mon prénom?
Vous téléchargez l'application.
C'est gratuit, on est d'accord?
C'est complètement gratuit, on est une association loi 1901, on vit que du don, donc tout est gratuit pour les SAMU comme pour les citoyens. Donc vous téléchargez l'application, vous vous inscrivez, vous dites votre niveau de formation, on ne vous demandera pas de diplôme ni rien. C'est juste pour nous au SAMU, quand on va voir votre nom apparaître, quand vous y allez, on sait si vous êtes un médecin ou si vous n'avez aucune formation, on ne va pas vous aider tout à fait de la même manière.
Et moi qui ai le degré, moi j'ai passé le premier niveau 1, mais si Julia l'a pas, elle sera prise quand même, elle ne va pas être recalée, elle aura le droit de masser.
Ils ont aussi besoin de moi.
Voilà. Ouais. Oui, il vaut mieux quelqu'un à une minute non formé à qui on va dire comment faire.
Je vous avoue que moi je suis formée, mais j'ai très peur si un jour ça doit m'arriver, j'ai l'impression que je vais faire mal, mais je sais qu'il faut.
Mais vous ferez pas mal. Il vaut mieux quelqu'un qu'il ne soit pas formé, qu'il soit là immédiatement, qu'il soit relayé, on en parlait tout
bien
à l'heure,
sûr, au téléphone,
par quelqu'un de plus formé qui arrive 2 minutes plus tard, et un troisième qui arrive 5 minutes plus tard avec le défibrillateur, là on a une chance de sauver.
Bien sûr, on ne laisse pas quelqu'un par terre avec un cœur qui s'est arrêté.
Non.
On est alerté dans un périmètre de combien?
10 minutes à pied.
10 minutes à pied, d'accord. Pas plus que ça, évidemment, parce que je me dis, des arrêts cardiaques dans Paris, par exemple, il doit y en avoir un paquet. Si je télécharge, ça va sonner tous les 4 matins, je vais passer ma vie à devenir secouriste.
Alors, on a quelques chats noirs dans notre liste.
Ah, c'est vrai.
Oui, on en a quelques-uns qui sont intervenus plusieurs fois.
C'est drôle.
C'est vrai, oui.
Et qui ont sauvé des vies à chaque fois?
Pas à chaque fois, mais qui ont sauvé des vies. Voilà, c'est sûr que quand on habite sur une zone de très haute densité
de
population...
On dit chanoir, mais c'est surtout des héros du quotidien, en réalité.
C'est exactement
bien sûr. Et de quelle façon ils sont alertés? Enfin, on va être alerté.
Vous recevez un SMS et une notification de l'application. Et donc, vous cliquez sur le lien. Et si vous êtes disponible, bien sûr, vous acceptez. Si vous n'êtes pas disponible, c'est pas grave. Quelqu'un d'autre de la communauté le sera peut-être à ce moment-là.
Il y a des enfants déjà, donc de 15 ans, vous disiez 15 ans, mais est-ce qu'il y a déjà des ados qui ont été sauvés des vies, battre des cœurs?
Oui, bien sûr, on a des ados, j'ai la mémoire d'un jeune de 16 ans qui avait été chez son voisin d'un certain âge faire le massage cardiaque, il est en vie, il l'a reçu quelques jours plus tard à la maison pour boire un café.
Ça va créer des amitiés en plus, c'est clair.
Ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé au départ. c'est qu'on a créé une communauté.
Ben oui.
Les gens qui viennent aider, ils restent avec la famille. Ils vont peut-être les emmener à l'hôpital, garder le chien, des choses comme ça. On crée une communauté. On dit beaucoup les Français individualistes. Pas du tout. Mmh. Si vous leur donnez une application qui peut aider à sauver
c'est
les gens...
C'est presque une appli de rencontre.
Ça va être le mythique du cœur.
Ouais, c'est ça, c'est le cas de le dire. Il y a d'autres applications de ce genre, hein, je crois. Mais en fait, il faudrait, dans l'idéal, que tout le monde soit inscrit sur l'une d'entre elles. On est d'accord? C'est ça le but?
Oui, alors... Il y a plusieurs applications qui existent.
Les pompiers qui font aussi une appli, je crois.
Mais la grosse différence, c'est que Save Life, c'est une notion de citoyenneté où on ne vous demande pas votre diplôme. Mm-hmm. Les autres applications demandent un diplôme pour pouvoir s'inscrire. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment un acte de citoyenneté, d'où le nom de citoyen sauveteur qui a été repris par la loi d'ailleurs, dans ce sens-là, pour vraiment dire que c'est un acte citoyen.
Docteur, je voudrais m'inscrire, bon, je vais le faire sur Save Life, mais comment je me forme? Vous pouvez nous rappeler à tous les gens comme moi qui n'ont pas les gestes de premier secours?
Le plus simple, c'est d'aller sur Internet et de choisir les associations, la sécurité civile, la Croix-Rouge, la protection civile, l'ordre de Malte.
Ils font tous des très bonnes formations,
elles sont réglementées. Nous, on en fait quelques initiations très très courtes, parce qu'en fait, pour apprendre les gestes qui sauvent, il faut très peu de temps en fait.
Oui. Moi, c'était une demi-journée, je crois.
C'est très très court. Les gestes qui sauvent vraiment, c'est très très court, surtout ce qu'on fait dans cette formation.
Ah non, c'était une journée complète, mais c'était une journée très sympa en plus. Franchement, on l'a fait ça en entreprise en plus. Hein.
C'est généralement des choses plutôt sympathiques. Mmh. C'est surtout vous enlever la peur d'agir. Mmh. C'est pas tellement de savoir le massage cardiaque qu'on va vous apprendre à le faire, mais je suis sûr que dans 2 ans, vous aurez oublié exactement. Mais c'est ne pas avoir peur d'agir.
Moi, j'avais très peur du défibrillateur aussi. Franchement, c'est d'une simplicité à utiliser. Il dit tout ce qu'il faut faire, donc il n'y a plus qu'à suivre.
C'est tout simple.
On l'allume et ça se fait tout seul.
C'est allumé. Pour vous donner la simplicité, si les Américains le mettent au mur, et que c'est très très safe, ça craint rien du tout, vous pouvez l'utiliser, il n'y a jamais eu d'accident dans le monde, c'est extrêmement simple, il fait tout tout seul, et surtout par exemple pour la réanimation, il va vous guider pour réaliser le geste qui sauve. Donc voilà, et on les recense dans Save Life, hein, les défibrillateurs.
On sait où les trouver.
Exactement, vous pouvez les rentrer dans Save Life.
Bon, très génial. Merci beaucoup docteur Lamot de nous avoir accompagnés ce matin, et c'est noté, on peut tous participer à cette chaîne de survie. Pour cela, il suffit de télécharger l'application Save Life, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est gratuit et c'est important. On peut tous être amenés à sauver une vie un jour. Merci docteur.
Oui, merci beaucoup docteur. À présent Mélanie, on va changer de sujet, on va accueillir nos chroniqueurs pour la séquence tendance. Le chef pâtissier Geoffrey Cagne va nous dévoiler un secret ce midi, celui de sa recette de babka à base de chocolat et de noisettes. Ce sera vraiment très gourmand, et on va aussi découvrir des tendances coréennes avec Elsa Lévy. Et enfin, notre journaliste beauté Benjamin Lévesque va mettre en avant tous ces soins que l'on peut faire lorsqu'on est atteinte par un cancer du sein. Et oui, on peut prendre soin de soi même face à la maladie. Il va tout nous expliquer sur Europe 1.
Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission dédiée au bien-être et au mieux vivre. Et tout de suite, c'est une bande de chroniqueurs bien-être qui nous a rejoints. Chacun a sa spécialité, bien sûr, mais leur objectif à tous, comme nous, c'est de vous faire du bien, n'est-ce pas Mélanie?
Et oui Julia, et on va commencer par se faire du bien dans l'assiette avec le chef pâtissier Geoffrey Cagne. Bonjour Geoffrey.
Bonjour Mélanie.
Alors je crois qu'on a beaucoup de chance ce midi, beaucoup parce que vous allez nous parler de l'une de vos spécialités. C'est quoi?
C'est la babka.
Mais c'est quoi la babka? Il y a quoi dedans un
alors peu? La babka là, il y a pâte à tartiner, noisette, amandes caramélisées, fleurs de sel, streusel, noisette, fleurs de sel.
Ça fait pas grossir.
Que non, de la gourmandise.
De toute façon on est assise Mélanie, il n'y a pas de problème. Je sens qu'on va se régaler dans ce studio, et vous aussi, parce qu'il y aura évidemment des conseils que vous pouvez reproduire chez vous. Ensuite ce sera votre tour Elsa Lévy, et vous nous téléporterez en Corée si je ne me trompe pas.
Voilà, avec deux tendances bien-être, le Onjok et le Sonmudo, qui vont nous aider à mieux vivre notre solitude, notamment après tous ces confinements, ces couvre-feux. Ça ne peut être que bénéfique.
Et puis enfin, on terminera, je l'ai dit, ce tour de table avec le Jean-Pierre Coff de la beauté. Benjamin Lévesque. J'ai une petite blague, j'avais promis de le caser. Benjamin Lévesque, de quoi on va parler aujourd'hui?
Alors attendez, vous m'avez appelé le Jean-Pierre Coff de la beauté. Je prends ça comme un compliment, surtout venant de la part de la Carlos de la beauté.
Sérieusement, une chronique
engagée aujourd'hui, c'est octobre, donc c'est le mois de mobilisation pour le cancer du sein. Donc on va voir comment prendre soin de soi durant la maladie.
Très bien, merci Benjamin. On vous retrouve dans quelques minutes, mais tout de suite, il est l'heure de passer en cuisine dans Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
À
Allez, on démarre donc la séquence tendance de ce magazine avec d'abord la chronique gastronomie, comme chaque jour. Et on va parler pâtisserie aujourd'hui avec vous, Geoffrey Cagne. On y va. Alors, la babka, c'est
on
quoi
on la voit, il paraît qu'elle est chaude encore en plus.
Ouais, non, elle est chaude. Je l'ai emmenée dans mon scooter, donc elle a un peu bougé d'ailleurs.
Elle est belle encore. Mais c'est quoi une babka
alors,
déjà?
Une babka, en fait, on est sur une brioche un peu tressée ou roulée avec pâte à tartiner, généralement. Alors, en fait, faut savoir que la babka est d'origine polonaise à la base, et c'est plus comme un kouglof.
Un kouglof, d'accord.
Un kouglof.
Ça
a l'air lourd, un kouglof. C'est plus léger, la babka?
Alors, la babka, c'est aussi lourd.
Ah, c'est lourd aussi, d'accord. Léger, on va pas dire ça, mais ça a l'air délicieux. Déjà, je le vois de loin.
Ça
c'est quoi le petit truc qu'il y a dessus?
Alors,
là,
on va juste le voir de loin parce que je le ferai pas goûter celui-là.
Ah, d'accord,
pourquoi?
Ok.
Bah, parce que je le garde pour moi.
Ah, c'est dégueulasse de faire ça.
Bah non, il est juste là.
Bah
non,
ouais,
non.
Mais bon, c'est pour moi.
Mais
voilà.
C'est pas vrai.
Moi, je disais, j'aime bien Geoffrey, les généreux, tout ça. Là, je suis un peu déçue. Hein. Bah,
mais en plus, c'est super à la mode, j'ai l'impression, la babka. Si on peut dire que des gâteaux sont à la mode, qu'est-ce que vous en pensez, Geoffrey?
Alors, celui-ci, oui, c'est vrai qu'il est à la mode. Ça fait 2-3 ans qu'on le voit partout sur Paris. Faut savoir que cette babka, en fait, c'est pas comme la version polonaise, c'est plus comme la version israélienne, qui est comme le krantz. Donc le krantz, c'est pareil, c'est une brioche tressée avec du chocolat. Et ben voilà, c'est la babka.
Votre recette, en tout cas, elle vient d'un voyage. Hein. Vous aviez fait un voyage, je crois, en Israël, et c'est de là que vous avez mis au point votre recette.
Exactement,
hein, c'est ça. Chez tout de vous avez vu.
Voilà, c'est ça. C'est fou. On sait tout de tout le monde maintenant aujourd'hui. Non, en fait, je suis parti en Israël en masterclass. Donc j'ai donné des cours pour des étudiants là-bas en pâtisserie. Et j'ai ramené avec moi dans mes bagages aussi des stagiaires. Et ces stagiaires-là, en fait, lors d'un repas en fait du personnel, m'ont fait une babka et j'ai dit mais il faut absolument la lancer. On l'a un peu changé, relooké, et puis on l'a lancé. Je me souviens très bien, j'étais chez Storer en plein mois de juillet et ça a fait le gros buzz.
C'est quoi vos adresses coup de cœur pour s'acheter justement des bonnes babkas?
Alors il y a Babka Zana qui est spécialisée dans la babka et c'est Manu et Sarah qui gèrent cette maison avec beaucoup d'amour et qui donnent beaucoup d'amour aussi dans l'assiette.
Et vous n'avez pas d'autres adresses?
J'ai d'autres adresses, bien sûr. Bah, y a la mienne.
Ouais, voilà,
24 rue des Moines, vous trouverez des babkas qui sont aussi
très
bonnes.
Qu'on n'a pas le droit de goûter, mais apparemment elles sont bonnes.
Je vais vous la faire goûter, je vais la couper. Mais un homme ne sait pas faire deux choses à la fois. Voilà. Je parle et je ne sais pas couper en même temps.
Et si on est d'humeur pâtissière, hein, Geoffrey, on peut faire une babka à la maison. Est-ce que vous avez une recette à nous donner?
Alors oui, j'ai une recette. Et d'ailleurs, j'avais édité déjà un livre avec la maison Storer. Et j'ai une recette assez simple. Assez simple, tout est relatif.
On y va, prenez vos crayons, vos stylos.
Prenez vos crayons. Donc, pour faire la pâte à babka, il faut 250 g de farine, 3 g de sel, 50 g de sucre semoule, 12 g de levure boulangère, 150 g de lait, 50 g de beurre. Et en fait, on fait exactement comme une brioche. Et dedans, vous pouvez prendre une pâte à tartiner type... Vous l'étalez bien dedans, vous mettez quelques noisettes, vous la torsader, ou vous pouvez la rouler, vous la laissez pousser, vous la cuisez.
Laisser pousser, ça veut dire quoi, la brioche?
Laisser pousser, ça veut dire la laisser prendre de la forme avec une température ambiante.
Elle
une
va grossir
minutes,
en fait,
voilà,
hein, c'est
elle
ça.
Elle va doubler de volume et au four, elle va tripler de volume. Donc ça, vous la cuisez 170 degrés pendant 18 minutes et vous avez une babka toute chaude et bonne pour le petit goûter.
Alors si je résume, au moment où je décide de faire une babka et au moment où je la mange, il se passe combien de temps?
Il se passe 2-3 heures.
Ah quand même,
ouais. Oui, parce que la pousse, c'est long un petit peu. C'est combien de temps la pousse justement?
Alors la pousse, c'est 45 minutes à peu près.
Ouais, ça va,
ça dépend.
Vous avez le temps d'aller vous faire masser en attendant ou faire autre chose, hein. Un peu de ménage, vous adorez.
Faire surtout du sport pour éliminer d'avance.
C'est ça surtout.
Ouais, ça doit être un petit
peu. Benjamin, vous qui êtes juste à côté, qui avait le temps de la goûter tout de suite.
J'ai goûté il y a un mois à peu près, j'ai adoré, mais effectivement, oui, il vaut mieux aller au sport parce qu'on coule à la piscine après.
Mais c'est quoi justement, Geoffrey, les parfums qu'on peut associer à la babka?
Alors, on peut associer tous les parfums qu'on veut. On peut suivre la saisonnalité. On peut très bien en faire une avec de la mirabelle, de la crème d'amande. On peut très bien en faire une au chocolat.
On peut mettre ce qu'on veut dans une babka.
Non, mais on peut faire ce qu'on veut parce qu'en fait, c'est comme une brioche.
Les marrons glacés dont vous nous parliez la dernière fois, les marrons châtaignes, tout ça, on pourrait en mettre dans la babka.
On peut
fruits rouges aussi.
On peut mettre des fruits rouges selon la saisonnalité. Donc, on va attendre l'été prochain et on mettra des fruits rouges.
Ah, génial. Et la pâte à tartiner, c'est pas obligatoire, ça?
Non, on peut mettre. En fait, il faut un liant Ça veut dire qu'un lion, on peut très bien mettre une crème d'amande, on peut très bien une pâte de pistache, on peut mettre ce qu'on veut en fait.
Il y a un petit goût presque beau et praliné un peu. Ça fait un...
Alors là, il y a du praliné, il y a beaucoup de choses là.
Oui, mes fesses le sentent déjà. C'est riche, hein. Mais c'est bon.
Et c'est génial. Et comment on conserve une babka? Combien de jours
on peut... Parce que là, elle est chaude, on peut la garder combien de temps?
Alors,
si on ne l'a pas déjà tout dévoré.
Alors, ce qui est le mieux, c'est qu'en sortie de
je partage avec Julia, parce que d'une part, à deux, c'est mieux.
C'est plus précis, on a fait une émission sur les complexes, justement.
En sortie de four, en fait, vous la filmez directement au contact tout avec un film, et du coup, vous allez garder le moelleux de la babka.
Benjamin, on vous entend.
Ah, pardon. Ce qui est bien,
c'est que dans la noisette.
Et ça, c'est plaisant. C'est ça qui est plaisant, c'est, chouette, c'est qu'on tombe sur vraiment des petits morceaux de.
Non, mais comme ça, nos auditeurs ont l'impression de déguster avec vous, Benjamin. Mmh. C'est ça qui est bien. Vous êtes bruyant.
Bon, malheureusement.
Il n'y a pas un peu d'alcool?
Non, pas du tout.
Ah bon, c'est moi.
Ça, c'est le reste d'hier soir.
On filme, et donc, vous avez dit combien de temps à peu près on la garde ensuite, la babka? Ça peut rester 3-4 jours
3-4 jours, 3-4 jours à la maison, filmé ou dans une boîte à
jours chez moi. Je vous préviens.
Mais en fait, ça n'arrive jamais. Je vous pose une question qui arrive rarement.
Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, quand je la ramène à la maison, au bout d'une heure, il n'y en a plus.
Mais oui, c'est ça, parce que les enfants adorent aussi, en plus, je suis
sûre. Les enfants, ma femme, tout le monde adore.
Il y a un peu de fleur de sel, non?
C'est ça. Voilà. C'est ça.
Et j'ai appris ça parce que j'ai présenté le meilleur pâtissier pendant quelques années. C'est un exhausteur de goût.
C'est ça.
Le sel dans les desserts, en fait.
Et ça baisse aussi le taux de sucre.
Ah oui,
ça veut dire que
et le nombre de calories, non? Je ne sais pas, si je mets du sel, ça annule pas les calories de
noisette. Malheureusement, non. Malheureusement, non.
Elsa, vous n'avez pas goûté parce que vous allez parler bientôt.
J'ai goûté
aussi,
et j'ai senti que j'allais plus pouvoir parler parce que c'est très, très bon et vraiment délicieux.
Oh oui,
mais c'est
déjà
un petit peu. C'est pas très radiophonique. Mais c'est très bon.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre tour de table des tendances continue. Il ne reste plus une miette de la babka.
Chez vous surtout, parce qu'on avait dit on partage, elle a
tout mangé. C'est trop bon. Et merci pour la babka, Geoffrey Cagne, c'était trop trop bon. Et du coup, on a pris des forces avec Mélanie. Nous sommes prêtes à embarquer avec vous, Elsa Lévy, vers la Corée. Allez, on y va.
Ouais, on va parler alors du Hongjok et Sonmudu. Alors ça fait un peu nom de personnage de Dragon Ball Z, mais il n'en est rien. Je vais commencer par le Hongjok pour en venir au Sonmudu. Alors le Hongjok, c'est la tendance bien-être coréenne pour bien vivre la solitude. Et ça débarque chez nous maintenant en réponse aux dégâts de la crise sanitaire qui ont fait que solitude et isolement se sont mélangés. Mais retournons d'abord aux origines du Hongjok avec un peu de K-pop. On est en 2010 en Corée du Sud, hein, je précise, lorsque la jeune génération commence à rejeter massivement le système patriarcal traditionnel, au point que le taux de fécondité est en chute libre et le mariage boudé par les jeunes coréennes. Et dans cette conjoncture, les jeunes ont voulu s'émanciper de la pression sociale et apprendre à vivre heureux, seuls et indépendants. Surtout que chez les Coréens, ça n'est pas vraiment un signe extérieur de réussite d'être seul sur le plan amoureux, comme lors de n'importe quelle activité. C'est alors que débarque le Hongjok, qui est la contraction de Honjo, qui veut dire seul en coréen, et de Jok, qui signifie tribu. Il s'agit de faire tribu avec soi-même, non pas dans un délire schizophrène au point de vouloir être plusieurs, mais avec le désir profond d'avoir une vie intérieure riche, afin de s'affranchir des codes sociaux.
Bon, Elsa, comment on fait pour être seule mais à plusieurs, alors?
Oui, comment on pratique le Hongjok?
Eh bien, alors, un des objectifs principaux, c'est de se libérer du regard des autres. Car souvent, plus que la peur d'être seule, c'est la peur d'être vue seule qui nous limite. L'enfer, c'est les autres, comme disait
Sartre. Moi, j'ose jamais aller au restaurant toute seule.
Moi, j'adore ça.
Alors, il faudra pratiquer le Hongjok.
Ah, vous aimez aller seule?
Moi aussi. Mais pas le soir, si. C'est peut-être plus le midi.
Ouais. Ah, moi j'adore être dans un pays étranger seul.
Il faut un peu le Hongjok
vous êtes déjà des produits Hongjok, très bien. Donc l'idée c'est de parvenir à faire justement n'importe quelle activité seule, sans complexe, puisqu'on en était au complexe. Boire un simple café en terrasse, comme faire un voyage à l'autre bout du monde. Et je précise que ça vaut pour les célibataires comme les personnes en couple, car le Hongjok, ça n'est pas rejeter le reste du monde, c'est vivre son intériorité parmi les autres. Pour y parvenir, le Hongjok réunit plusieurs astuces à mettre en pratique au quotidien. Par exemple, on va se créer des petits rituels, comme boire un thé tous les soirs à la même heure, en tête à tête avec soi-même, pour apprivoiser un moment.
Avec une petite part de babka,
et devant un miroir ou pas?
Pas forcément, ça dépend du niveau. On peut également privilégier l'introspection par le biais d'activités artistiques. On peut aussi faire le tri dans ses relations et ne garder que celles qui nous mettent en joie. Le mieux vaut être seul que mal accompagné. Enfin, on s'adonnera à des pratiques méditatives
pour renforcer le lien avec nous-mêmes. Donc la méditation, le yoga, embrasser les arbres, etc. Mais comme tout ça, on connaît déjà et que dans cette émission, on est à la pointe des nouvelles tendances, voici une discipline coréenne qui trouve de plus en plus d'adeptes et qui va dans le sens du onjok, puisqu'elle va, entre autres, renforcer la confiance en soi, le sonmudo.
Bon, alors c'est quoi?
Voilà, en cœur. Alors, le sonmudo, c'est un art martial issu du bouddhisme, mais il n'y a pas d'adversaire à proprement parler. C'est assez proche du tai chi ou d'un yoga dynamique. Et j'ai demandé à Benjamin Guillaume, qui est président de l'école française et européenne de sonmudo, de nous éclairer sur le fonctionnement.
En alliant le geste et la respiration, on va en fait rechercher un relâchement physique et mental. On va ensuite l'utiliser pour une partie un petit peu plus dynamique et martiale de la discipline.
Voilà, l'idée, c'est de faire que le mouvement et l'esprit ne fassent qu'un pour évacuer les tensions, mais aussi renforcer l'intériorité. Et comme dans tout art martial, il y a une dimension spirituelle qui vise à la maîtrise de soi.
Il réveille en nous un voyage intérieur vers l'apaisement harmonieux de l'être physique et mental. Il contribue ainsi à constituer un rempart au stress et nous aide à nous renforcer dans notre vie quotidienne par notre posture, notre sérénité.
Et si vous souhaitez vous initier, il y a des centres un peu partout en France. Sur le site sonmudo.eu, vous trouverez toutes les adresses et plus d'explications sur ce sport de combat où le véritable combat, c'est de se réconcilier avec soi-même. C'est donc un bon outil pour faire sauter nos limites, dont celle de la peur d'être seul. Avec le sonmudo et la philosophie du onjok, on fait de la solitude une force plutôt qu'une honte ou une souffrance, car même si on est très entouré, c'est avec soi-même et personne d'autre qu'on traverse chaque seconde de notre existence, pour le meilleur et pour le pire. Alors autant que ce soit pour le meilleur. Alors ce soir, je vous invite à boire un thé.
Vous, mais je crois qu'il fallait être seul. Et non,
seul, en compagnie de vous-même et de ces mots Auguste Strindberg. Il disait « La solitude, c'est s'envelopper dans le cocon de son âme, se faire chrysalide et attendre la métamorphose, car elle arrive toujours. »
Très bien.
Ah, il était bien cet Auguste. Hein. Franchement, j'aurais pas dit mieux. Hein,
merci beaucoup, Elsa Lévy.
Ah, je peux enfin manger mon gâteau.
Allez-y, je vous en prie. Merci pour ce voyage au pays de la zénitude ce midi. Merci. Benjamin Lévesque, notre expert beauté, c'est à vous de jouer avec une chronique aujourd'hui dédiée à toutes les femmes qui sont concernées par le cancer du sein. Une chronique Octobre Rose, hein, c'est bien ça.
Oui, puisque toutes ces femmes qui se battent justement contre la maladie, eh bien, vont subir des traitements assez lourds, hein, la chimiothérapie par exemple, mais aussi la radiothérapie ou les traitements hormonaux. Le problème, c'est que ces traitements, eh bien, vont avoir des effets secondaires importants. Alors, vous connaissez sûrement ces effets, Elsa, Jeffrey.
Mais les cheveux qui tombent, la peau qui est très sèche.
Voilà, exactement, on peut avoir des nausées. On va aussi perdre ses cils, ses sourcils. Le cuir chevelu, va démanger, il y a des picotements. Les ongles aussi vont aussi être attaqués, ils vont noircir et ils peuvent même tomber. Et enfin, les mains et les pieds, alors ils peuvent morfler, hein, parce que ce sont des zones où les traitements en fait, ont tendance à s'accumuler. Et résultat, eh bien, on peut subir d'une sécheresse extrême, hein, qui abîme et fait mal. On a parfois des femmes qui ne peuvent même plus tenir un stylo ou même marcher.
Et pour elle, Benjamin, les crèmes classiques qu'on trouve dans le commerce, c'est pas suffisant? Ça marche pas?
Eh ben non, Julia, puisque en fait, la peau de ces femmes est considérée comme la plus sensible. Et donc, les crèmes de corps classiques ne suffisent pas. Elles sont pas assez efficaces, hein, pour la sécheresse extrême. Et puis, en plus, selon la composition de ces crèmes, on peut avoir un risque d'allergie important.
Bon, qu'est-ce qui existe alors aujourd'hui pour ces femmes?
Eh ben, depuis quelques années, on a plusieurs marques, alors totalement dédiées aux femmes concernées par le cancer, en vue le jour. Alors, pour en citer quelques-unes, vous avez aux Alice ou encore même. Et vous avez par exemple ce vernis. Alors, il est parmi les plus sains avec un maximum d'ingrédients naturels. Et surtout, il est enrichi en silicium. Et le silicium, eh bien, c'est comme une colle naturelle, hein, qui permet de maintenir l'ongle et éviter, disons, qu'il tombe ou qu'il se fissure.
Alors ça, c'est vraiment un vernis qu'on utilise quand on a eu traitements.
Quand on est en traitement, justement, quand on est en pleine chimiothérapie.
Parce que justement, ça empêche la chute des ongles, etc.
Voilà, et les chimiothérapies peuvent faire tomber les ongles.
Il y a d'autres couleurs? Parce que là, vous nous présentez en fait une sorte de rose.
Il y en a pour tous les goûts, il y a toutes les couleurs. Là, je vous en ai apporté qu'un, mais j'avais pas toute la palette.
Il y a une gamme, une vraie gamme.
Rose, du rose, ils sont très bien.
Alors, vous nous avez parlé, Benjamin, des mains et des pieds fragilisés. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour éviter justement ça?
Alors justement, il existe des petits gants et des petits chaussons. Et c'est Judith Lévy, la cofondatrice de Même Cosmétique, qui nous explique les bienfaits.
On a des gants et des chaussons qui sont en cosmétotextile. C'est un système en fait qui est occlusif, qui est complètement fermé autour des mains et autour des pieds, à l'intérieur duquel est présent notre sérum hyper hydratant pour les mains et pour les pieds. Et le fait de créer ce système occlusif et fermé autour des mains et autour des pieds, ça permet de faire pénétrer bien plus largement la formule en profondeur et donc d'hydrater beaucoup plus efficacement ces zones qui sont particulièrement agressées. Alors on peut le mettre un peu quand on veut, il faut laisser poser une demi-heure à peu près, donc ça peut être un très bon moment sympa devant la télé le soir ou le dimanche matin. Et on peut faire ça au moins deux fois par semaine pour s'assurer un bon soin de ce syndrome main-pied.
Génial.
Et alors pour le cuir chevelu, on peut trouver aujourd'hui des brumes apaisantes hein, contre les picotements. Pour la sécheresse du corps, alors ces marques justement ont développé des crèmes ultra hydratantes et puis aussi très faciles à appliquer hein, puisque ce sont des femmes qui doivent parfois étaler plusieurs fois de la crème par jour. Donc il faut des produits qui pénètrent rapidement et qui ne collent pas. Et puis aussi après une mastectomie, donc quand on retire un sein ou une partie, eh bien certaines femmes peuvent avoir du mal à lever un bras et donc il faut des cosmétiques qui ne demandent très peu d'efforts justement pour s'étaler.
Bon Benjamin, est-ce que même pendant les traitements, on peut continuer à se maquiller, donc à rester féminine hein ? Il y a
et
des
oui,
choses qui existent.
Oui, il le faut malheureusement. Certaines femmes ont tendance à oublier de prendre soin d'elles pendant les traitements. C'était le cas de Fleur, 48 ans. Alors elle a été victime d'un cancer du sein en 2013, puis d'une récidive 7 ans plus tard. Et pour elle, se maquiller a été le moyen de garder le moral.
Quand j'ai commencé les traitements lors de mon premier cancer, je m'étais un petit peu laissée aller et je me suis retrouvée donc à l'hôpital, une mastectomie, donc l'ablation du sein. Et là, j'ai vu apparaître dans ma chambre, alors non pas une infirmière, mais une petite fée, donc une socio-esthéticienne. Et là, je les remercie, je fais un bisou à toutes les socio-esthéticiennes. Et là, elle m'a proposé une pose de sourcils. J'étais en train de souffrir, j'avais une pompe à morphine, et mais je n'ai pas trouvé complètement fou de me proposer de me faire les sourcils. J'ai dit oui, 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 tout ce que vous voulez. Et je me suis regardée dans le miroir et je me suis trouvée moins fatiguée. Presque jolie, j'avais toujours mes yeux bleus et ils pétillaient. Maman était en face de moi et c'était top.
Heureusement, il y a des onco-esthéticiennes maintenant dans de nombreux établissements. Hein. C'est bien, elles sont des petites fées complètement.
Voilà, ouais. les petites fées des malades. Alors, je vous ai parlé des cosmétiques pendant les traitements, mais aussi après le cancer. Il existe dorénavant des sérums qui favorisent bien la repousse des cils et des sourcils.
Donc, utiliser effectivement sans modération. D'ailleurs, Benjamin, est-ce qu'il y a des nouveautés en termes de prothèses capillaires ?
Oui, alors on essaye de moins en moins d'avoir des perruques avec du poil synthétique. On privilégie du vrai cheveu, mais pour ça, ça ne pousse pas dans le jardin. Donc, il faut faire un don de cheveux et certains salons de coiffure comme les salons Jean-Marc Joubert eh bien, proposent durant tout le mois d'octobre eh bien, de couper 25 cm de cheveux et de les envoyer justement à des associations pour en faire des perruques. Alors 25 cm, c'est important parce que c'est la taille minimum justement pour faire des prothèses capillaires. Et aussi, alors, il faut des cheveux naturels, donc il ne faut pas de coloration.
Exactement. Et ça veut dire qu'on peut aller faire des dons de cheveux dans ces coiffures.
Voilà,
chez
vous allez au salon si vous voulez vraiment
génial,
vous faire une petite
coupe à la garçonne. Il faut attendre de les avoir un peu longs pour avoir 25 cm. Jeffrey n'en a pas assez, mais les allons, hein, mais bientôt.
Non,
hein.
Mais Mélanie et moi, je pense qu'on peut faire un don. Julia aussi.
Moi, à peine.
Elsa.
Oui, bon. En tout cas, c'est quelque chose
c'est une
que je ferais
volontiers.
Complètement.
Effectivement.
Très bon.
Eh bien, merci beaucoup, Benjamin, pour ces nouveautés beauté pour les femmes qui traversent cette épreuve. C'est très réconfortant,
merci,
je trouve.
Merci, Benjamin. Merci à tous les trois pour ces bons plans, ces conseils culinaires ou beauté qui nous font tant de bien tous les jours. On vous retrouve très bientôt dans l'émission. Voilà, bien fait pour vous. C'est fini pour aujourd'hui, pour cette semaine. Mais nous serons de retour lundi dès 11h. Vous pouvez compter sur nous. Julia, lundi, peut-être un petit aperçu du programme.
Ah oui, volontiers, Mélanie. Lundi, on va s'adresser à tous ceux qui s'interrogent depuis le Covid ou même avant d'ailleurs, sur leur carrière professionnelle et sur leur vie en général. Peut-on réellement entamer une reconversion n'importe quand, à n'importe quel âge ? Si vous aussi vous rêvez enfin de vivre de cette passion qui vous trotte dans la tête depuis longtemps, je vous invite à nous rejoindre lundi dès 11h. On vous donnera les clés d'une reconversion réussie et on verra aussi pour éviter les pièges qui sont nombreux.
Bien sûr, et lundi, Julia, il y aura toujours de nouveaux sujets tendances de la santé d'ici là. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur notre compte Instagram ou encore sur le répondeur de l'émission, le 3921.